discipline de revenir en cabotine. En libertine, en Bourgandine. Tiens, en Juliette nous rédine.
Alors, je me suis trompée, c'est des rimes et des...
Des rimes féminines.
Des rimes féminines, voilà, le titre exact de Juliette. Voilà. Merci Sylvie. Femme libre, pourquoi Hélène, un titre ?
Alors, Femme libre, bah, c'est une émission qui a été créée donc par Nelly Trumel en 1986 pour le 50e anniversaire de la Révolution espagnole, en hommage ou en fémage, comme on pourrait le dire, bien sûr, à ces femmes qui s'étaient organisées à partir d'avril 1936. Autour d'un journal, Mujeres Libres, et se sont rassemblées à 20 000 femmes. Mm-hmm. La plupart étaient analphabètes, et elles ont fait des choses extraordinaires, puisque, enfin, une des choses les plus drôles qui soient en Espagne, c'est quand même d'avoir voté la loi sur le droit à l'avortement un 25 décembre dans un pays aussi catholique que ça n'était à l'époque.
Tout voilà. À fait.
Donc, en fémage à ces femmes, l'émission a pris ce titre parce que Nelly, quand elle a démarré la radio, eh bien, c'est Laurent de la Libre Repubblico qui lui a donné le livre de Marinache. Et elle l'a lu pendant quelques mercredis, comme ça, et jusqu'à ce que quelqu'un lui téléphone en lui disant « C'est très bien l'histoire, mais il y a aussi des luttes féministes à Paris et en France aujourd'hui. Donc, je vais te donner des contacts. » Voilà. Et dans les premières femmes qu'elle a invitées, ça c'était en 88 qu'elle a invité... c'était Geneviève Fraisse, mm-hmm, et Michel Perrault. Hein, quand même, c'est pas rien non plus. Non. Voilà, des grandes dames pour nous.
Alors, tu peux rappeler les conditions pour écouter l'émission ? C'est le mercredi de 18h30 à 20h30, tous les mercredis.
Tous les mercredis.
Donc, et puis demain, on vous retrouve à 18h30 à l'antenne.
Voilà, et puis on peut nous retrouver sur Miss Cloud, et puis sur notre blog...
Blogspot, oui.
Blogspot, voilà.
Et Femme libre.
Émission Femme libre, Blogspot, Miss Cloud. Et
Facebook aussi.
Et Facebook, voilà.
Bon. Donc, ma chère Sylvie, à toi.
Oui.
Alors, la première d'entre toutes, Ève.
Alors, la première d'entre toutes, c'est Ève. Alors, ça n'est pas l'Ève mythologique,
oui,
comme on est habitué à y penser, mais c'est l'Ève scientifique, une femme en chair et en os qui a réellement existé il y a plus de 150 000 ans, 200 000 ans, en Afrique de l'Est, et qui est notre ancêtre commune à toutes et tous les femmes et les hommes vivant actuellement aujourd'hui, c'est-à-dire que nous sommes toutes cousins et cousines.
Oui. On va l'expliquer à Bardella.
Oui, nous descendons donc d'elle par une lignée matrilinéaire.
Voilà, tout à fait.
Sans aucune rupture.
Sans aucune voilà. rupture, oui.
Et ça, c'est important à voilà. préciser.
Alors, ce n'était pas la première femme, ce n'était pas la seule femme. Et elle n'a pas vécu avec l'Adam chromosomique, certainement aussi, qui lui permet, c'est notre ancêtre masculin commun à toutes et tous aussi, mm-hmm, par le chromosome Y. Et bon, l'Ève mitochondriale, c'est par l'ADN des mitochondries,
oui,
qui se transmet de mère en fille. Et voilà, donc ça déconstruit un petit peu tous ces mythes écrits par des hommes, comme quoi eh bien, les premières femmes étaient responsables des malheurs de l'humanité et qu'il fallait les soumettre, quoi. Et cette ancêtre commune, eh bien, c'était une femme comme nous toutes, quoi, qui a vécu. Et c'est assez émouvant. Et alors, cette femme n'est pas immuable parce que si sa lignée s'arrête, en fait, elle peut changer en fonction des hommes et des femmes qui vivent sur Terre, quoi. C'est pas une image fusée. Et puis, c'est pas non plus Lucie. On nous a souvent dit que Lucie, c'était la grand-mère à nous tous. Eh bien non, Lucie, c'est une vague cousine, puisque c'était une australopithèque.
Tout à fait.
Voilà, et que c'est Ève mitochondriale, c'était une femme comme nous.
Voilà. Donc, cinq parties dans ce livre. Hélène?
Oui, ben oui, il y a cinq parties parce que il a fallu. Alors, d'une part, tu as dit tout à l'heure qu'il y avait à peu près 70 portraits, mais on en a, nous, gardé que 25 pour ce livre-là. On verra si on en fait un autre par la suite. Mais là, il n'y a que 25.
Je vous encourage, parce que celui-là donne envie de voir la suite.
Et du coup, une fois qu'on a 25 portraits, qu'il faut un peu les calibrer pour pas qu'ils soient trop longs et qu'ils soient à peu près tous équivalents, ce qui était un gros travail à faire aussi.
Eh bien,
après, on les a rangés par catégorie et on a essayé de trouver des catégories, qui étaient cohérentes, quoi. Alors, il y a des communards et des anarchistes. On démarre par ça, parce qu'on est dans l'émission Femmes Libres sur Radio Libertaire. Après, on passe aux inventrices et aux scientifiques. C'est très important aussi de montrer que les femmes, elles sont capables de faire des choses extraordinaires. Et puis, les pionnières de l'écoféminisme. Ensuite, des artistes. Et puis, celles qu'on n'arrivait pas à mettre dans les quatre catégories, on a dit féministes, tous azimuts, et ça nous a bien plu. Voilà.
Alors, je regrette, c'est qu'on n'a pas pensé à mettre une sportive, mais on n'avait pas vraiment la place, parce qu'on fait aussi des portraits sur les sportives.
Mais un deuxième livre, voyons, je vous encourage, parce que celui-là nous donne envie de lire votre prose, à toutes les deux, et allez-y, mettez-vous au travail, faites-nous un deuxième livre, et vous reviendrez l'année prochaine. Premier juré. Alors, on va commencer par des anarchistes et des communardes, des communardes et des anarchistes. Le premier portrait,
c'est de Paul Mink.
Et voilà. C'est pas Nelly Trumel, le premier.
On a parlé de Nelly Trumel.
Non.
On a parlé.
Tu l'as déjà évoqué. Oui. Donc,
Paul Mink.
Oui, alors le premier portrait, c'est Paul Mink, effectivement. Alors très souvent, quand je choisis des portraits, c'est par des rencontres ou par des thèmes généraux. Mm-hmm. Donc il y avait des 150 ans récemment de la Commune, et donc j'ai fait quelques portraits de communards. On a cherché à ne pas faire les portraits de femmes trop connues, enfin qu'on connaissait déjà bien. Donc, entre autres, il y a eu Paul Mink. Alors Paul Mink, c'est effectivement une communarde. C'est une fille d'un Saint-Simonien aristocrate polonais et d'une mère aristocrate aussi. Alors elle est un peu dans sa vie, elle va épouser très jeune un homme, elle va divorcer, elle va avoir cinq enfants de trois pères différents et elle qualifiait le mariage d'asservissement de la femme. Alors, c'est une oratrice et une intellectuelle redoutable. Elle était à la fois professeure de langue, lingère, femme de lettres. Et on la décrivait comme une petite femme très brune, un peu sarcastique, d'une grande énergie de parole, qui raille avec esprit ses contradicteurs. Alors, elle va adhérer à la Première Internationale en 1868.
La Première Internationale, c'est 1864.
Non, mais elle y adhère en 1868.
D'accord.
Et elle va fonder très vite une organisation féministe et mutualiste, la Société Fraternelle de l'Ouvrière.
Oui.
Alors, j'ai peut-être pas dit que Paul Mink, elle est née d'ailleurs Mekarski, et elle va vivre entre 1839 et 1901, pour la situer.
En biographie. Oui.
Alors, avant la Commune, elle va se battre contre les Prussiens. Et puis, pendant la Commune, elle est très active, elle va animer des cours, elle va des clubs, elle va ouvrir une école. Et pendant la Semaine sanglante, elle va s'exiler en Suisse et elle va être condamnée par contumace. Et à Genève, elle dit « Nous sommes des pétroleuses et c'est avec honneur que nous revendiquons ce titre ».
Bravo. Alors, dans ton portrait qui est enlevé, on croise le portrait d'André Léo, de Maria Deren et de Louise Michel.
Eh bien sûr, toutes ces femmes-là...
Dans ce portrait-là.
Elles les croisent, elles font des choses ensemble, peut-être de Dmitriev aussi.
Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est pour ça que je l'ai choisi en premier, c'est que tu as réussi à la rendre vivante, et il est très difficile de rendre vivante d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Bon, Louise Michel, on la rend vivant. Bon, nous, au groupe Louise Michel, depuis que Banksy a pris sur lui d'affréter un bateau et de l'appeler le Louise Michel, on est tranquille, on fera jamais mieux que lui pour rendre Louise Michel immortelle. Donc on est tranquille, on y va à notre rythme. Voilà, on fait ce qu'on peut. Oui. Mais tu as réussi à rendre ces femmes et Madame Paul Mink, très vivante. Mmh. Et ça, je t'en félicite parce que.
Mais en général, je cherche effectivement à savoir un petit peu de leur vie privée et puis à essayer de trouver leurs écrits, extraire des phrases qu'elles ont dites et à essayer de les mettre dans le contexte comme des femmes vivantes et pas comme des femmes.
Sur Paul Mink, ce qui était intéressant, c'est qu'elle a. Elle a écrit dans La Fronde.
Oui, après, hein, quand elle est amnistiée, elle revient.
Et si on revient à aujourd'hui, en 2021, a été inauguré un jardin Paul Mink, rue Saint-Fargeau, par la ville de Paris. Hein, voilà, puisque la ville de Paris avait demandé dans chaque arrondissement de trouver quelque chose à inaugurer. Eh bien, le jardin qui est rue Saint-Fargeau s'appelle maintenant Paul Mink. Et j'y étais allée à l'inauguration. Et là, j'ai vu sa petite fille qui était présente. Et c'était très émouvant.
Mmh. Ça, j'imagine. Elisabeth Dimitrieff, Les Couches-Léva,
en 1851. Alors, voilà. Pour rebondir un petit peu sur les places que la ville de Paris donne à ces femmes, j'ai tout à fait par hasard découvert qu'il y a près de la République, avec la rue Turgot, etc., sur une petite place, et bien elle a aussi sa place, la place Dmitrieff. Donc, elle aussi, elle est fille d'un aristocrate russe. Et elle va décider de devenir une militante féministe et révolutionnaire. Alors, elle est fille aussi illégitime d'un aristocrate tsariste et elle est très vite sensibilisée au traitement des serfs, aux inégalités. Et donc, ça va la pousser vers le marxisme et l'engagement. Alors, comme en Russie, eh bien, les femmes ne pouvaient pas aller à l'université, elle va contracter un mariage blanc à 17 ans pour pouvoir s'exiler à Genève et pouvoir étudier. Et ça lui permet de toucher son héritage pour financer donc ses études. Et elle devient rapidement une figure active et elle va fonder avec d'autres femmes la section des dames pour s'opposer à la misogynie d'hommes socialistes comme Proudhon.
Ah oui, ça j'ai apprécié de savoir qu'elle s'était opposée à Proudhon sur sa misogynie. Oui. Enfin quelqu'un qui lui répondait, vraiment.
Alors, son destin se scelle un peu à Londres, avec sa rencontre avec Karl Marx, en mars 1871, qui va l'envoyer à Paris pour couvrir et participer à l'insurrection. Et donc, elle a 20 ans quand elle arrive dans la capitale, et elle va changer son nom et choisir celui de sa grand-mère, qu'elle va masculiniser. Et donc là, c'est pareil, c'est un geste qui est une forme de contestation des normes de genre de l'époque. Alors, c'est une actrice majeure de la Commune. Et elle va, le 11 avril 1871, elle lance un appel aux citoyennes de Paris pour qu'elles s'engagent dans le combat en disant « Citoyennes de Paris, descendantes des femmes de la Grande Révolution, nous allons défendre et venger nos frères, et si nous avons ni fusil ni baïonnette, il nous restera des pavés pour écraser les traites. » Et alors cet appel va déboucher sur une de ses œuvres majeures, la création de l'Union des femmes pour la défense de Paris, et les soins aux blessés qu'elle cofonde avec Nathalie Lemel, pour aussi reciter d'autres communards. Alors l'Union, ce n'est pas une simple organisation de charité, ça devient une force politique de plus de 1000 adhérentes qui va organiser des ateliers coopératifs dans le textile et revendique l'égalité des salaires entre hommes et femmes. Et alors pendant la semaine sanglante, elle prend les armes. Sa présence est restée légendaire. On la décrit comme grande, les cheveux d'or, admirablement belle. Et le sang d'un camarade blessé, Léon Frankel, coule sur sa robe élégante alors qu'elle le soutenait. Donc après la défaite, elle parvient à s'échapper. Et elle reprochera amèrement à ses camarades de l'International de ne pas avoir soutenu Paris. Alors après, elle va repartir en Russie, elle va épouser un escroc, elle va divorcer. Et puis elle va vivre dans la pauvreté. Et on ne sait pas exactement la date de son décès, soit 1910, soit 1918. Ça reste encore un grand mystère.
Bien, nous allons faire, mesdames, une pause. Et nous allons revenir sur les autres portraits. Merci Jean-Michel pour la première pause.
S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant. Je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore. À l'heure de votre mort, je vous ai porté des fleurs, vous ai morcelé mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie. C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue. Celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai, je vous prie, ne me vantez pas, vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimé servante, m'avez voulu ignorante, forte vous me combattiez, faible vous me méprisiez, vous m'avez aimé putain, et couverte de satin. J'avais fait de statue, et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide, quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte. C'est Joséphine ou la Dupont, fille de nacre ou de coton. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Celle qui attend sur le port, celle des monuments aux morts, celle qui danse et qui en meurt, fille bitume ou fille fleur. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Soyez comme je vous ai rêvé depuis longtemps, libre et fort comme le vent, libre aussi, regardez, je suis ainsi, apprenez-moi, n'ayez pas peur, pour moi, je vous sais par cœur. J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant, j'étais la bûche et le feu, l'incendie. J'étais la déesse mère,
mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous vos pas, et je ne le savais pas. Mais un jour, la terre s'ouvre, et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompant découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague, de violence inemployée. Mais voilà, comme une vague, vous ne serez pas. Elle ou moi, et c'est l'ancêtre ou c'est l'enfant, celui qui cède ou se défend, c'est Gabriel ou bien Eva, fille d'amour ou de combat, et c'est mon cœur ou bien le leur, celle qui est dans son printemps, celle que personne n'attend, et c'est la moche ou c'est la belle, fille de brume ou de plein ciel. C'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger.
Alors, vous l'avez reconnu, Anne Sylvestre.
Une sorcière comme les autres.
Merci Hélène. Alors, nous allons parler de Teresa Claramunt
Creus. Alors, 1862-1931, qui est une figure majeure surnommée la Louise Michel espagnole par Emma Goldman, une ouvrière du textile. Elle est l'une des fondatrices du mouvement anarchiste espagnol et une pionnière du féminisme anarchiste ouvrier. Mm-hmm. C'est aussi une anarcha syndicaliste. Elle naît donc dans une famille ouvrière. Elle ne reçoit qu'une éducation très élémentaire, mais se forme en autodidacte et elle a une voix qualifiée de magnétique. Alors elle va s'engager très vite. À 21 ans, elle participe à la grande grève de Sabadell. Mm-hmm. Et constatant que le manque de participation féminine, elle s'investit pour que les femmes s'organisent elles-mêmes. Elle a compris très vite que la lutte des classes ne suffirait pas à libérer les femmes, car elles subissent une oppression spécifique.
Tout à fait.
Donc elle est précurseur en créant de nombreuses organisations féministes non mixtes. Elle dénonce elle aussi le mariage traditionnel qui est pour elle une prison pour la femme. Et sa vie est un roman de persécution, une succession de prisons, d'exil, d'évasion. Elle subit des tortures à la forteresse de Montjuïc après l'attentat de 1896. Et les mauvais traitements vont lui laisser des séquelles à vie. Et à la fin, elle se déplacera en fauteuil roulant. Emprisonnée, elle va même être condamnée à mort pour son activisme. Elle ne cesse jamais son combat. Et voilà, donc après, jusqu'à la fin, elle va continuer son action de militante en Catalogne, en Aragon. Voilà, en disant que les femmes ne doivent pas se contenter de pleurer sur leur sort. Elles doivent s'unir, s'organiser et lutter pour leurs droits. La liberté ne se donne pas, elle se conquiert.
Merci Sylvie.
Et elle meurt avant connaître la révolution espagnole.
Et il faut dire que les féministes qui vont créer le mouvement Mujeres Libres se sont inspirées d'elle.
Ouais. Voilà. Alors, nous allons passer aux inventrices.
Eh ben, les inventrices, alors on en a choisi deux, mais on aurait pu en choisir d'autres, hein, parce que... Sylvie nous en a présenté d'autres, mais Elisabeth Magui, c'est l'inventrice oubliée du Monopoly. Elle l'avait créé parce que elle trouvait que ce jeu qui est souvent associé à un capitalisme impitoyable où les joueurs s'affrontent pour ruiner les adversaires, eh bien elle avait conçu un jeu anticapitaliste.
Tout à
voilà.
Fait.
Et malheureusement, c'est pas son nom qui est ni ce jeu-là qui a été retenu.
Ni les royalties.
Comme souvent, les femmes peuvent inventer quelque chose. Et c'est un homme qui s'en est
emparé.
Alors, l'autre dont on peut parler, c'est Melita Benz, parce que qui n'a pas pris son café en prenant un filtre Melita? Eh bien, le filtre Melita a été créé par Melita Benz. Et ça, c'est quand même drôle de voir. Et il y en a une autre qui a inventé aussi le Tipex, de voir en fait que les femmes, elles s'attachent à des choses du quotidien pour améliorer leur quotidien. Mais au-delà de ça, elles arrivent ensuite, alors pour elles, hein, elle s'est pas fait piquer son invention, elles arrivent à en faire même une
entreprise.
Une entreprise qui prospère et a bien gagné leur vie.
Oui. Alors, la troisième par laquelle j'aimerais que tu s'attardes, c'est Trotula de Salerne.
Alors, Trotula de Salerne, c'est la première gynécologue oubliée. Elle naît dans les années 1000, mais c'est peut-être un ensemble de femmes. Les femmes de Salerne, donc peut-être c'est le 11e siècle, 12e siècle, mais donc c'est une figure mi-historique, mi-légendaire du Moyen-Âge, et donc à l'époque c'était une médecienne. Son nom est associé à l'écriture d'un ouvrage, Les maladies des femmes, qui fait partie donc des textes connus sous le nom de Trotula. Et il faut savoir que pendant près de 500 ans, c'est ce livre qui fut le seul recueil complet de médecine féminine et pédiatrique en Europe. C'est celui qui faisait référence donc pour soigner des femmes. Alors elle a aussi révolutionné cette médecine. Parce que selon elle, comme les femmes ont honte de révéler, de raconter leur détresse à n'importe quel homme pour aider des femmes, eh ben, il faut être une femme aussi pour qu'elles aient le courage de divulguer leurs secrets. Alors, elle a des idées révolutionnaires. C'était incroyable au Moyen-Âge. Elle préconisait, par exemple, l'utilisation d'opiacés pour soulager les douleurs de l'accouchement. Elle décrivait des procédures chirurgicales pour réparer un périnée abîmé avec des fils de soie. L'idée que la stérilité du coup pouvait aussi provenir d'un homme était quelque chose d'assez révolutionnaire.
Oh oui, même jusqu'à présent.
Donc elle ouvrait aussi des discussions sur la sexualité, la contraception et même des méthodes pour contrefaire la virginité. Donc refaire la virginité des femmes. Voilà, mais eh bien il va y avoir un oubli historique, hein, c'est l'effet Mathilda. Les hommes, pourtant à son époque, elle était considérée comme une femme très savante, et ses travaux furent attribués à des hommes sous prétexte qu'une femme n'aurait pu manier des instruments chirurgicaux ou écrire sur des questions sexuelles.
Bon, l'effet Mathilda.
Voilà.
Bien. Donc là, nous avons fait les inventrices et les scientifiques.
Quelques-unes. Il y en a plus dans le livre, d'ailleurs.
Mais je les ai choisies parce que nous avons que 90 minutes, malheureusement.
Ça couvre comme ça plusieurs siècles, plusieurs périodes, plusieurs villes ou continents.
Et donc, nous allons pouvoir passer à la troisième catégorie, les pionnières de l'écoféminisme.
Ah oui, avec Françoise Daubonne.
Oui. Voilà.
Françoise Daubonne qui a fréquenté la librairie Publico. Hein, moi, je l'ai rencontrée.
Et on a ses ouvrages à la librairie Publico.
Voilà. Françoise Daubonne qui aujourd'hui est reprise. Puisque le féminisme ou la mort a été réédité, et c'est un vrai bonheur de savoir que ces textes-là, même s'il y a quelques trucs racistes dans son propos, mais c'est quand même un vrai bonheur de voir qu'elle a réussi à nous faire comprendre nous étions, nous, les individus, dans le vivant en général, dans le vivant, et que si on maltraitait les femmes ou qu'on maltraitait le vivant, eh bien, c'était quasiment la même chose. Hein. On ne peut pas maltraiter le vivant, et ce sont souvent les femmes qui sont les premières à dénoncer la maltraitance du vivant. Voilà.
Alors en plus de ça, il faut dire qu'elle a cofondé le mouvement de libération des femmes, le MLF, et qu'elle a signé le manifeste des 343 comme en reconnaissant qu'elle aussi elle avait avorté, et elle a participé à des actions comme le fameux commando au saucisson,
oui,
contre le professeur.
Un saucisson,
Lejeune.
ça fait mal.
Ça fait mal, mais c'est pas interdit.
Ça fait aussi mal qu'une matraque, mais c'est pas interdit.
Elle va confonder aussi le Front homosexuel d'action révolutionnaire, le phare. Et effectivement, comme tu disais dans son essai « Le féminisme ou la mort », elle dit « Le drame écologique découle directement de l'origine du système patriarcal ». Et alors, elle dénonce l'illimitisme ou le lapinisme phallocrate qui mène à la superposition. Et donc, elle appelle aussi les femmes à reprendre le contrôle de leur fertilité en posant la grève des ventres comme un enjeu à la fois féministe et écologique. Et son radicalisme l'a conduite à participer au sabotage de la centrale de Fessenheim pour retarder son lancement. Voilà,
donc, qu'elle a déclaré bien après
oui.
Puisque ils ont fait une enquête, ils n'ont jamais trouvé que c'était Françoise Aubonne.
C'est par le mot qui avait été rédigé où on a pu aussi penser que ça pouvait être
elle.
Et du coup, elle a créé le mouvement de réflexion écologie féminisme,
au MLF
avec Xavier Gauthier, oui. dans la revue Sorcière de Xavier Gauthier, Françoise Aubonne écrivait.
Voilà. Alors, dans le vivant, il y a une autre écoféministe, oui. Vandana Shiva.
Donc là, on part en Inde. L'éco-guerrière des graines ou la rockstar dans la bataille mondiale des OGM. Donc, elle est née en 1952 en Inde. Elle grandit au pied de l'Himalaya. Son père est garde forestier, sa mère agricultrice. Et un jour, elle lui dit « Si tu portes une robe en kadi, une femme du village nourrira ses enfants. » Alors, elle va avoir un doctorat en philosophie des sciences. Mais elle va avoir un déclic quand elle rejoint le mouvement Chipko, des femmes qui s'enlaçaient aux arbres pour empêcher leur abattage, et c'est une vraie révélation pour elle. Donc, lors d'une conférence à Genève en 1987, quand elle entend que les multinationales planifient de breveter le vivant et de prendre le contrôle des semences, elle comprend alors que s'ils peuvent contrôler les graines, ils contrôlent la nourriture, c'est plus puissant que les bombes, c'est le meilleur moyen de contrôler les populations du monde. Alors,
oui, surtout les populations pauvres.
Oui, pauvres. En s'inspirant de la non-violence de Gandhi, elle va fonder l'association Navdanya et créer un réseau de plus de 120 banques de graines à travers l'Inde pour préserver, reproduire et redistribuer les semences traditionnelles. Et donc, elle aussi, c'est une théoricienne de l'écoféminisme. Elle aussi, elle dit « Le patriarcat détruira la planète si nous ne le ralentissons pas ». Et alors, elle fait un combat acharné contre les géants de l'agroalimentaire comme Monsanto et Coca-Cola. Grâce à elle, des brevets sur le riz basmati ont été annulés. Elle a réussi à faire fermer une usine Coca-Cola polluante en Inde et à mobiliser des millions de manifestants contre Monsanto. Voilà, donc pour elle, la solution réside dans un changement de modèle radical, celui de la coopération, du dialogue et de la souveraineté alimentaire. Les femmes et la biodiversité nourrissent le monde, pas les corporations et les OGM.
On est bien d'accord. Alors, Hélène, la quatrième partie.
Alors,
nous sommes sur notre lancée. Les artistes.
Voilà, les artistes. Alors, oui. Dans les artistes, on a Chiquinha Gonzaga, on a Kyu Jin, voilà. Myriam Makeba et Anne Sylvestre.
Voilà, Anne Sylvestre, dont on a écouté un premier titre, qu'on va écouter un deuxième titre, pas tout de suite, mais on va commencer par Kyu Jin,
là on part en Chine.
Voilà.
C'est une écrivaine, une poétesse et une révolutionnaire chinoise fin 19e siècle, début 20e siècle. Donc elle a lutté pour l'éducation des femmes et contre le bandage des pieds.
Voilà. Ça c'est très important.
Oui. Alors, elle naît dans une famille aisée. Elle va bénéficier d'une éducation rare. Mais elle est forcée à un mariage forcé. Et à 28 ans, elle quitte mari et enfant, vend ses bijoux pour financer un voyage et part étudier seule au Japon en 1903. Mmh. Elle y coupe ses cheveux, adopte l'habit masculin, se proclame ennemie des hommes. Et elle rejoint les cercles révolutionnaires, s'engage pour le renversement de la dynastie des Qing. Mais surtout, elle constate que les hommes progressistes ignorent la cause des femmes. C'est bien très commun entre tous les portraits que l'on peut faire. Et elle fulmine. Les hommes sont les maîtres. À ma passion tout entière, je brûle de colère. Alors, je rappelle que c'était une poétesse aussi. Mm-hmm. Alors, elle va rentrer en Chine, où elle lance le journal des femmes de Chine, appelant donc à la fin des mariages arrangés et de la tradition des pieds bandés qu'elle avait elle-même refusé de subir. Et elle va transformer une école de filles en base révolutionnaire pour préparer l'insurrection. Alors en 1907, elle est trahie, elle refuse de fuir, déclarant qu'il y a au moins une femme parmi les martyrs de la patrie. Elle est arrêtée, torturée, condamnée à mort sur la seule base de ses poèmes. Et elle est décapitée en public à l'âge de 31 ans, devenant la première femme martyre de la dynastie Qing. Et cinq ans après sa mort, la Chine devenait une république. Alors, aujourd'hui,
elle a eu raison trop tôt.
Oui, aujourd'hui, c'est devenu une icône qui résonne encore en Chine.
Oui. Hélène ?
Pour Myriam Makeba ?
S'il te plaît.
Non, je vais laisser la parole à Sylvie, mais Myriam Makeba, c'est une grande dame de la chanson, hein, et qui a vécu une enfance dans l'apartheid. Donc c'est peut-être ça aussi qui a fait que elle est devenue une militante, hein, parce oui. que elle a été en prison, elle avait, je crois, 18 jours oui. quand sa maman a été emprisonnée.
Pour avoir brassé de la bière illégalement, pour voilà. pouvoir subvenir oui. à ses besoins.
Voilà. Et son père est mort quand elle avait 5 ans. Donc, c'est une petite qui a... petite fille qui a été privée d'éducation à cause de l'apartheid, mais pour autant, elle a retrouvé refuge dans le chant.
Oui, elle se lance dans la musique et devient rapidement une vedette et avec Pata Pata, en 1956, où elle va signer son plus grand succès. Alors, elle va participer au film anti-apartheid Comeback Africa en 1959, donc le régime d'Afrique du Sud n'apprécie pas. Elle est contrainte à un exil qui va durer 31 ans. Et ses disques sont interdits.
Ils étaient vendus sous le manteau.
Voilà, oui. Alors, elle va être accueillie aux États-Unis et protégée par Harry Belafonte. Et elle va connaître à partir de là un succès international. Elle est la première femme noire à remporter un Grammy Award. Oui. Et alors, sa coupe de cheveux afro, hein, qu'on connaît bien, qu'elle portait naturellement, devient un symbole de look afro adopté par les afro-américains.
Mm-hmm. Comme Angela Davis.
Oui, mais son engagement va dépasser la musique. Elle dit « J'ai conservé ma culture, ma musique, mes racines. Et grâce à elle, je suis devenue cette voix et cette image de l'Afrique et de son peuple sans même en être consciente. » Alors, elle va dénoncer l'inique régime de l'apartheid sur la scène mondiale. En 1963 et 1971, elle intervient justement pour ça devant les Nations Unies pour appeler au boycott du régime. Alors, elle va se marier avec Stokely Carmichael, un militant des Black Panthers.
Ah, c'était le chef des Black Panthers.
Oui, avec le militant des... Oui, il était le chef des Black Panthers, oui, en 1968. Et là, ça va porter un coup d'arrêt à sa carrière américaine. Elle est obligée de partir en Guinée. À Conakry, où elle devient une figure symbolique du panafricanisme.
Oui, elle est accueillie par Sékou Touré, à qui on peut faire beaucoup de reproches, sauf qu'il a aidé beaucoup de Sud-Africains qui fuyaient leur pays. Il leur a donné des passeports diplomatiques pour leur permettre de continuer la lutte contre l'Afrique du Sud.
Alors, elle combat aussi pour le droit des femmes africaines. Incarnant la liberté, l'émancipation et la reconnaissance des femmes comme actrices principales de la décolonisation et de la résistance. Et donc, elle va inspirer de nombreuses militantes africaines.
Oui.
Et puis, bien, quand en 1990, Nelson Mandela est libéré, il va lui la convaincre de rentrer au pays. Donc, elle rentre après 31 ans d'exil. Et à son retour, elle devient ambassadrice de bonne volonté auprès de l'ONU et fonde des centres de réhabilitation pour femmes et filles. Elle s'éteint en 2018 après un ultime concert en Italie, donné en soutien à l'écrivain anti-mafia Roberto Saviano.
Tout à fait. Elle avait compris que la mafia était un danger pour tout le monde et elle s'était rendue en Italie pour aider Saviano. Tout à fait exact. Alors Hélène, on va parler de Anne Sylvestre, que tous nos auditeurs connaissent, mais peut-être quelques éléments qui sont peu connus.
Quelques éléments, je ne sais pas lesquels choisir, mais c'est vrai qu'elle a une enfance qui a été marquée par la grande histoire et par l'histoire de son père. Hein. J'avais 10 ans, la photo d'Albert Begrasse, donc son père, était partout, des pages entières dans les journaux. C'était mon père, un père aimant. Je suis allée à son procès, maman y tenait, elle a eu raison. Mes camarades, chapitrés par leurs parents, m'ont placée en quarantaine. Et la directrice, qui était la sœur du colonel Rémy elle-même, déportée, m'a défendue et sauvée. Voilà, puisque son père avait été condamné à la libération pour collaboration. Hein. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qu'elle a gardé longtemps et elle n'a pas voulu porter, d'ailleurs, reconnaître ce nom de Begrasse. Mmh. Hein. Voilà.
Après, je ne peux pas dire qu'elle était la sœur de l'écrivaine.
Et donc la sœur de l'écrivaine, ouais. Qui portait ce nom-là. Ouais. Elle ne voulait pas. Mais ceci dit, au-delà de ça, qui l'a beaucoup marqué, c'est une très grande chanteuse, dans le sens où elle écrivait d'une façon remarquable, d'une manière ciselée. On pourrait dire...
Une autrice compositrice, voilà, une des premières compositrices.
Et elle n'aimait pas qu'on la ramène aux fabulettes. Elle n'a jamais chanté d'ailleurs les chansons fabulettes en public. C'était uniquement en disque parce que elle avait peur que ça cache son
talent,
son talent sur les chansons pour tout le monde, quoi. Voilà.
Elle a refusé aussi des chirurgies esthétiques qu'on lui conseillait de faire.
Changer son nez, non, voilà. Et puis elle a participé quand même avec avec Pauline, Pauline Julien. Ou avec Agnès Bill, elle a participé à des projets qui étaient fort intéressants. Avec Pauline Julien, c'était Gémeaux croisés, puisque toutes les deux étaient nées au mois de juin. Et puis avec Agnès Bill, c'est Carré de Dames, avec les deux pianistes, et puis Agnès Bill et Anne Sylvestre, ça faisait donc quatre. Et je crois que les projets pour éviter, c'est ce qu'elle disait aussi, pour éviter de faire des tours de chant, elle avait envie d'avoir des gros projets comme ça, des spectacles avec d'autres. Voilà. Et elle était, je crois, comme on dit, qu'elle avait un mauvais caractère, dès qu'on grattait un peu, on trouvait un très bon caractère et quelqu'un de très généreux.
Voilà. Alors, Anne Sylvestre, mon mari est parti. Si Jean-Michel peut nous le passer, merci beaucoup.
Mon mari est parti un beau matin d'automne. Parti, je ne sais où. Je me rappelle bien, la vendange était bonne et le vin était doux. La veille, nous avions ramassé des girolles au bois de Viremont. Les enfants venaient juste d'entrer à l'école et le temps était bon. Mon mari est parti un beau matin d'automne. Le printemps est ici. Mais que voulez-vous bien que le printemps me donne? Je suis seule au logis. Mon mari est parti, avec lui tous les autres maris des environs. Le tien, Éléonore, et vous, Marie, le vôtre, et le tien, Marion. Je ne sais pas pourquoi, et vous non plus sans doute, tout ce que nous savons, c'est qu'un matin d'octobre, ils ont suivi la route et qu'il faisait très bon. Des tambours sont venus nous jouer une aubade. J'aime bien les tambours. Il m'a dit, je m'en vais faire une promenade. Moi, je compte les jours. Mon mari est parti, je n'ai de ses nouvelles que par le vent du soir. Je ne comprends pas bien toutes ces péronnelles qui me parlent d'espoir. Un monsieur est venu m'apporter son costume. Il n'était pas râpé. Sans doute qu'en chemin il aura fait fortune et se sera nippé. Les fleurs dans son jardin recommencent à poindre. J'y ai mis des iris. Il le désherbera en venant me rejoindre lorsque naîtra son fils. Mon mari est parti quand déjà la nature était toute roussie. Et plus je m'en défends et plus le temps me dure, et plus je l'aime aussi. Marion, m'a-t-on dit, vient de se trouver veuve, elle pleure beaucoup. Éléonore s'est fait une robe neuve et noire et jusqu'au cou. Pour moi, en attendant que mon amour revienne, je vais près de l'étang. Je reste près du bord, je joue et me promène. Je parle à mon enfant. Mon mari est parti un beau matin d'automne. Parti, je ne sais quand. Si les bords de l'étang me semblent monotones, j'irai jouer dedans.
Pas de quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Nous sommes dans la dernière partie de l'émission avec Sylvie et Hélène pour leur livre de Ève à Philomène, sans oublier les autres, aux éditions du Monde Libertaire. Alors, pourquoi mon mari est parti? C'est pour faire la jonction avec un portrait, celui de Anne Crenias. Hélène, pourquoi? Oui.
Alors, mon mari est parti, à la guerre, et c'était la guerre d'Algérie.
Voilà. Ah,
bien sûr. Et Anne
Crenias,
que nous on appelle et qui s'est fait appeler Hélène Quena. Forcément, quand on est une militante FLN, pro-FLN, on ne peut pas porter vraiment son nom. Hein, donc, voilà, on va parler d'Hélène Quena. Qui est une militante et féministe engagée et qui est décédée en 2022, donc il y a peu de temps. Elle a été traitée de tigresse du FLN et puis en plus, elle s'est évadée de la prison de la Roquette avec une corde en bas nylon. Ça, c'est... une réussite d'un collectif féminin. Elles allaient à la couture de la prison et en douce, elles faisaient une corde avec leur bas en nylon et puis des crochets avec les, je crois que c'était les crochets de soutien-gorge.
Oui, oui,
voilà, qu'elles arrivaient à faire
des crochets.
Enfin bon, en tout cas, des femmes qui s'évadent d'une prison, il y en a pas tant que ça dans au XXe siècle. Voilà, on parle souvent des hommes, mais rarement des femmes. Alors, pourquoi elle est allée en prison? Eh ben, parce que tout simplement, c'était une militante communiste et elle avait pris conscience que ce qui s'écrivait dans les livres et dans les journaux, eh ben, c'était pas vraiment ce qu'elle avait envie de vivre. Hein. Elle y voyait surtout la violence de la colonisation et du coup, elle milite, et quand elle apprend que des Algériens sont torturés dans un commissariat parisien, elle dit que les manifestations ne suffisent plus. Et si, elle dit bien, si l'on était contre la torture, il fallait être contre la guerre. Et si l'on était contre la guerre, il fallait être pour l'indépendance de l'Algérie. Et c'est là qu'elle rentre en clandestinité. Et puis qu'elle transporte des fonds et des tracts. Elle est arrêtée en 1960 face à la DST. Elle refuse toute concession parce que peut-être que les femmes auraient pu avoir un traitement différent. J'y crois pas vraiment, surtout dans cette période de guerre que la France faisait contre les Algériens qui voulaient être libres. Et elle est surnommée à ce moment-là la tigresse parce que elle a des réactions très très vives, hein. Elle est quand même condamnée à 10 ans de prison à la Petite Roquette à Paris. Pendant ça,
par un tribunal militaire. Hein.
Par un tribunal militaire, bien sûr. Bah, comme Hélène Brion avait été condamnée par un tribunal militaire, alors qu'à l'époque d'Hélène Brion, en 1918, il n'y avait pas de droit, il n'y avait aucun droit pour les femmes, et surtout pas d'être militaire, ni de voter, mais ça n'empêche que elles passent devant un tribunal militaire à partir du moment où elles sont considérées comme dangereuses pour le pays, quoi. Et là, quand elle est emprisonnée, il y a une petite anecdote qu'elle écrit dans un livre qui s'appelle La Porte Verte. Elle voyait sa fille à une porte de la prison.
Porte dérobée.
À une porte qui était un peu cachée. Pour éviter que sa fille ne la voie au parloir et rentre dans la prison, il y avait une petite porte qui permettait de voir sa fille parce que les matones...
Qui étaient des bonnes sœurs, je crois.
Qui étaient des bonnes sœurs, oui. Fermer les yeux, bien sûr. Elle aurait pu s'échapper par cette porte. Mais non, c'était quand même mieux de s'échapper comme...
Comme un homme.
Comme un homme, voilà. Mais elle voyait sa fille régulièrement. C'était une façon pour elle de voir sa fille. Et je crois que, voilà, c'est intéressant de voir les anecdotes qui sont autour de cette femme, parce qu'elle a rencontré Simone Veil, qui est venue contrôler les prisons.
Attends, c'est parce qu'elle faisait une grève de la faim.
Voilà, elle
faisait. Oui. Parce qu'elles étaient à l'isolement pour pouvoir sortir, je crois, d'une forme d'isolement. Et Simone Veil, un jour, est apparue. Et...
Voilà, mais voilà, elle visite la prison à cette occasion. Oui. Et voilà, c'est quand même aussi une rencontre importante. Mmh. Après, quand elle a travaillé en Algérie, et quand elle est revenue en France, elle a travaillé au CNAM.
Conservatoire national des arts et métiers.
Voilà. Et puis,
à la formation professionnelle.
Et elle a terminé sa carrière, je crois, c'est en 1996, au CNAM. Voilà. Et elle est morte en 2022. Ça veut dire qu'elle avait, je ne sais plus en quelle année elle était née. Elle était née en 1931. Elle avait... alors, vous savez compter, vous c'est un peu dur, là.
Oui, très dur.
Je crois qu'elle avait 91 ans. Hein,
81 ans. Elle décède en...
81 ans. 80. Voilà, 81 ans. Et elle a continué son militantisme jusqu'au bout.
Oui. Hein,
c'est ça qu'il faut dire aussi. Alors, évidemment, ça nous donne l'occasion de dire... que dans le livre, ce n'est pas que des femmes anarchistes.
Non. Ça, c'est dans Féminisme tout azimut.
Voilà.
Ce sont des femmes qui ont montré la voie.
Oui, qui ont montré une certaine voie, qui ont montré un certain courage. Et même si elles sont communistes, eh bien, c'est quand même une femme remarquable.
Oui,
voilà.
Dans des siècles passés, l'anarchisme n'existait pas encore. Autant de trottula, je ne pense pas qu'on puisse...
Alors, je voudrais qu'on revienne des siècles passés, justement. On va faire le portrait de Marie Wollstonecraft.
Wollstonecraft,
parce qu'elle est la mère de quelqu'un qu'on...
De Mary Shelley.
Tout à fait. Elle est plus connue comme étant la mère de Mary Shelley que comme son parcours de vie, qui est formidable.
Oui.
Donc Sylvie, on t'écoute.
Mais en plus, elle a été mère très peu de temps, puisque c'est en mettant au monde Mary Shelley, qu'elle deviendra Mary Shelley, qu'elle est morte.
Alors, Marie Wollstonecraft, 1759-1797, pour la situer, c'est la première féministe de Grande-Bretagne. C'est une autodidacte, philosophe et militante anglaise, donc qui, au XVIIIe siècle, osa défier la société patriarcale et les conventions de son temps. Alors, sa vie débute marquée par la violence paternelle et bien sûr la discrimination entre les sexes. Et pour elle, ce fut un combat constant pour l'indépendance des femmes. Alors, son œuvre majeure, elle va écrire « Défense des droits des femmes » en français, qui va être publiée en 1792 et va être traduite très vite et considérée comme donc l'un des premiers essais philosophiques féministes. C'est un pamphlet visionnaire qui répondait aux idées qui confinaient les femmes à une éducation purement domestique. Elle y affirme que les femmes sont victimes d'un conditionnement normatif qui en fait des êtres de sensiblerie. Et elle réclame que les femmes aient la même éducation que les hommes afin de développer leur raison et leur force physique et morale. Et donc, elle est la première femme à tenter de vivre de sa plume pour atteindre cette indépendance qu'elle considérait comme une base de toutes les vertus. Alors, sa vie est aussi radicale que ses écrits. Elle dénonce, elle aussi, l'esclavage du mariage. Et sa vie privée va être non conventionnelle, notamment une relation avec Gilbert Imlay qui lui donne une fille hors mariage. Et ça va choquer ses contemporains.
Tout à fait.
Alors elle va, du coup, après une séparation, elle va tenter de se suicider. Elle va faire un voyage et écrire des livres. Elle va partir seule aussi avec sa fille et va écrire aussi un livre sur ce voyage. Et ses tentatives de suicide et ses dépressions vont être révélées après sa mort par son mari. Et ça va être un vrai scandale. Et elle va être, du coup, mise à l'écart, vilipendée. Et son œuvre, du coup, c'est pareil.
Elle sombrait dans l'oubli.
Va sombrer dans l'oubli.
Voilà. Elle a été retirée de l'oubli par deux femmes, notamment Emma Goldman et Virginia Woolf.
Voilà. Et ce sont deux femmes plus récentes qui vont nous la remettre au jour.
Alors, ce qui est intéressant aussi chez elle, c'est que quand elle écrit « Défense des droits des femmes », c'est en 1792, au moment où, en France, Olympe de Gouges écrit « Déclaration des droits
de la femme
et de la femme et de la citoyenne
».
On est sur une même période.
Oui.
Hein, voilà. Ce qui montre aussi que les femmes dans ces pays occidentalisés pensaient de part et d'autre la même chose et voulaient s'émanciper. Quoi.
Tout à fait.
Et alors, sa personnalité continue à être polémique, puisqu'il y a eu une polémique autour d'une statue d'elle qui a été érigée à Londres en 2020, et il y a eu plein de monde qui se sont opposés à sa statue.
Alors, le dernier portrait, parce qu'il faut de toute façon donner envie, on va pas tout prendre de tous les portraits, et il faut donner envie aux gens d'aller sur le site pour écouter les autres portraits que Sylvie a présenté. Donc c'est Denise Bombardier. J'y ai tenu parce que j'ai revu, grâce à Lina, son apostrophe, dans Apostrophe justement, contre
Gabriel Masneff.
Voilà. Donc Denise Bombardier.
Alors c'est 1941-2023. Alors elle aussi, comme Quéna, on l'a surnommée la tigresse au franc-parler indomptable. C'est d'abord une journaliste et chroniqueuse québécoise, une politologue, une écrivaine et une animatrice québécoise qui s'est imposée par son franc-parler et sa ténacité. Elle était surnommée la reine des coups de gueule et elle fut une féministe engagée et une ardente défendresse de la langue française au Québec. Alors, elle a eu une enfance difficile et elle a été la première femme à animer une émission politique à la télévision canadienne Noir sur Blanc. Alors, effectivement, comme tu le rappelais, son acte de bravoure le plus retentissant a eu lieu sur la scène médiatique française lors de l'émission Apostrophe en mars 1990. Mm-hmm. Seule sur le plateau, elle s'est opposée publiquement à l'écrivain Gabriel Matzneff qui faisait l'apologie de ses relations sexuelles avec des mineurs.
Ça lui a valu d'être mise au banc.
Oui, c'est au banc, oui. Et alors, elle dit au Québec, il y a des lois pour protéger les enfants contre les gens comme vous.
Mmh, tout à fait.
Et alors, effectivement, elle va être mise au banc de la société, enfin, du tout moins du monde littéraire.
Donc français. C'est,
français, oui.
Donc mais c'est pas québécois.
Pas québécois, non, français. Elle va subir des insultes,
on va la
traiter de mégère, de mal baisée, et par des écrivains
reconnus
à l'époque, enfin, maintenant en France. Et 30 ans plus tard... cette archive vidéo dont tu parles est devenue virale et l'écrivaine Vanessa Springora a salué son courage pour s'être insurgée seule contre la complaisance de toute une époque.
Tout à fait.
Et alors son militantisme, alors elle-même a été abusée vers l'âge de 12 ans, je ne sais plus, à l'occasion dans un rendez-vous journalistique ou autre. Et alors, en 2011, suite à l'affaire Dominique Strauss-Kahn, elle co-signe Ne vous taisez plus, un livre qui dénonce le machisme en France. Elle y dénonce les humiliations et les agressions subies par les femmes au quotidien. Voilà. Et donc, jusqu'à sa mort, elle va rester une voix essentielle. Elle est saluée par le premier ministre canadien de l'époque, Justin Trudeau, comme une femme tenace, passionnée, intelligente, courageuse, laissant un héritage de journalisme d'opinion qui n'avait pas peur de déplaire et qui fut pour beaucoup, franchement, très libérateur.
Oui, connaissant Trudeau, on se doute que ce n'est pas lui qui a écrit la nécrologie. Bon,
voilà. Et le film, Le consentement, fait vraiment écho à ce tout. Qu'elle pouvait dénoncer.
Voilà, oui, tout à fait. Mais combien d'années après,
tout à fait.
40 ans après.
Et tu avais terminé avec une phrase qui me semble très importante. Comment les petites filles s'en sortent-elles? Voilà. Et je crois que c'est important parce que on parle souvent de ce que l'homme prédateur fait. Mais il faudrait aussi penser à comment une petite fille peut se construire une vie d'adulte après avoir été abusée par ce prédateur.
Et c'est une phrase qu'elle avait dite justement sur le plateau d'Apostrophe.
Bien. Alors, on n'a pas dit que le livre est illustré de façon magnifique.
Oui, par Amande Hart. Alors, Amande Hart, c'est une belle histoire aussi à raconter. Moi, je l'ai rencontrée sur le salon du livre Libertaire de Cluny, il y a quelques années. Et quand j'ai vu les portraits qu'elle faisait de femmes anarchistes, et puis aussi bien dessinées, je suis allée la voir et j'ai pris contact avec elle. Et tout de suite, on s'est... On est devenu amis, quoi, quasiment. Mm-hmm. Et quand elle vient à Paris exposer au café Fusain, qui est dans le 11e arrondissement, ses productions, quand elle vient aussi exposer avec d'autres femmes, donc les sorores à Paris, à chaque fois ben on essaye de la voir dans l'émission Femmes Libres. Voilà, c'est devenu une amie. Et quand on lui a parlé qu'on allait faire un livre, elle m'a dit oh, moi tu sais, j'ai beaucoup de portraits. Et donc, je lui ai dit, est-ce que tu pourrais nous faire les portraits des femmes qu'on va retenir? Et je lui ai envoyé la liste et tout de suite, elle a dit, bon, la plupart, j'ai déjà fait le portrait. Et il y en a quelques-unes Philomène.
Oui, Philomène, il faut quand même en dire deux mots.
Là, je voulais qu'on...
Voilà, j'y arrivais. Philomène, bah non, là, oui. Je la connais pas, mais les autres, voilà, et c'est vraiment magnifique, les portraits qu'elle a faits, pleine page, là, ça, c'est aussi mis en page très bien par Alain Eludu qui a fait oui. Toute la mise
oui,
en page.
Pour les remercier
et
tous.
Puis, il y a un seul portrait qui vient de Holt, Olivier Le Trouer, c'est celui de Nelly Trumel, parce qu'il l'avait fait et qu'il me l'avait envoyé. Et donc, j'ai pensé quand même qu'on pouvait mettre ce portrait de Nelly Trumel dans le livre. D'autant que c'est Holt qui a fait la couverture.
D'accord. Hein,
voilà.
Alors, de Ève à Philomène, sans oublier les autres, Philomène, ta grand-mère.
Alors, Philomène, oui, c'est mon arrière-grand-mère.
Pardon, ton arrière-grand-mère, en fait. Excuse-moi, j'ai sauté une génération.
Donc, elle a vécu au début, la première moitié du XXe siècle. Et pour moi, ça a été une femme importante, je ne l'ai jamais connue. Mais ce que m'en racontait ma mère, c'est qu'elle avait été chef de gare à une époque où, pour nous, avec mes cousines, ma sœur, etc., ça a été complètement improbable. Donc, c'est une personnalité qui nous a vraiment marqués et qui nous a permis, je pense, peut-être de faire des choix par la suite.
Sans
nous refuser quoi que ce soit. Alors, en plus de ça, ma mère me dit toujours, mon grand-père était plus petit que ma grand-mère. Enfin, ma grand-mère était plus grande que mon grand-père. Et mon arrière-grand-père, pardon. Et il travaillait sous les ordres de sa femme. Donc, c'était tout un contexte différent. En plus, ça, c'était une femme très drôle, très grande, qui avait beaucoup de caractère. Et voilà. Et donc, pour écrire ce livre, comme j'ai la chance que ma mère soit encore vivante, et elle m'a re-raconté sa vie un petit peu à Sadirac, dans le Bordelais.
Alors, on ne dira pas que c'est une femme de tête. Pourquoi ? J'ai retrouvé l'expression que je cherchais. Mmh. Ça vient de Pierre Daninos, dans le Jacassin. Il donne des définitions et il dit femme de tête. Cette demi-insulte que les femmes acceptent, sachant ce qui sous-entend que tous les hommes sont de tête. Mmh. C'est une demi-insulte, en fait. C'est carrément une insulte. Donc, oui. Il faut refuser femme de tête.
Oui, mais c'est pour ça que je dis femme de tête, il y aurait donc des femmes sans tête. Enfin,
voilà.
Et que justement, je vais aller à la rencontre de toutes ces femmes sans tête. Et puis, on montre bien que finalement...
Elles ont toutes des têtes.
Mais effectivement, ça nous était présenté comme ça. Ah, mais votre arrière-grand-mère, c'était une femme de tête. Mais bon... Effectivement, on peut remettre ça en disant, mais voilà, il n'y a pas que des femmes sans tête. En fait, les femmes sans tête, elles sont là aussi.
Alors, un dernier mot, Hélène ?
Eh bien, peut-être la conclusion du livre. Hein ? Alors, on peut le faire. Ces portraits témoignent d'une réalité constante. Des femmes ont toujours pris des décisions allant à l'encontre des normes de leur époque, nous les proposons et ils peuvent servir de modèle identificatoire, indispensable pour que les jeunes enfants puissent se projeter dans tous les métiers, dans tous les parcours de vie et partager une vision féministe du monde. Vandana Shiva ou Françoise Daubonne, par exemple, nous rappellent qu'il est possible de respecter le vivant tout en luttant pour l'égalité, mais toutes, chacune à leur manière, démontrent causer est possible. Donc, à l'image de toutes les femmes extraordinaires ou ordinaires évoquées dans les pages de ce livre et dans les émissions, puisse chacune et chacun être inspiré à choisir sa vie et à être libre.
Voilà. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, 25 novembre, journée contre les violences faites aux femmes, c'est une journée qui a été décidée en 99. À l'unanimité pour saluer le combat de trois sœurs, les sœurs Mirabal, qui ont lutté contre un dictateur, celui de Saint-Domingue.
Trujillo.
Voilà. Donc cette date du 25 novembre rejoint celle du 8 mars comme étant des dates emblématiques. Mais en fait, c'est tous les jours.
Bien sûr.
Qu'il faudrait.
Et ses sœurs Mirabal ont été
assassinées. Ouais, parce que non seulement elles étaient belles et qu'elles s'étaient refusées à ce dictateur, et à son fils, oui. Mais en plus, elles étaient militantes.
Tout à fait. Elles avaient épousé des militants.
Ouais.
Et ça, c'était impardonnable pour le dictateur. Nous avons commencé notre émission sans générique, avec une chanson, celle de Jean Guidoni. Je rappelle qu'il est décédé vendredi dernier et que c'est un choc pour tous ceux qui ont connu Radio Libertaire et qui ont fondé Radio Libertaire, parce qu'il a été de tous nos combats. Donc, pour combattre, il faut des chanteurs engagés qui nous incitent.
Et des chanteuses.
J'allais y venir. C'est moi fini. Et exceptionnellement, nous finirons pas par le générique de La Rage, mais par une chanteuse engagée, Myriam Makeba. La Luta Continua. Merci Jean-Michel. Je vous dis, portez-vous bien dans 15 jours. Merci Hélène, merci Sylvie.
Merci à toi de nous avoir invités.
Oh, un jour aussi emblématique, c'est moi qui vous remercie d'être venue, de vous être libérée pour venir ce jour-là. Vraiment, aujourd'hui, c'est un grand honneur. Merci beaucoup. Je rappelle, de Ève à Philomène, Sans oublier les autres, aux éditions du Monde Libertaire, Sylvie Gillot et Hélène Hernandez. Oh, je vais y arriver. C'est la fatigue, excusez-moi, et l'émotion.
Maputo, Maputo.